Vraie ville PM. Politique.
Je pense que l'austérité est un des éléments fondamentaux qui a fait que les Québécois ont voulu du changement. Alors, je me dissocie complètement du multiculturalisme à la Trudeau, c'est-à-dire où il n'y a pas une culture dominante. On est un peuple québécois, une nation francophone, et c'est très important de défendre ça. Qu'on développe une société intraculturelle où il y a une culture dominante, et cette culture-là, c'est le français, c'est très clair.
Voici Paul Journet et Hélène Buzetti.
Aïe, 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 ça c'était Alexandre Taillefer, le président de la campagne libérale qui veut toujours militer au sein du Parti libéral et qui visiblement est pas tendre avec son propre parti, qu'il souhaite peut-être même diriger un jour, on verra bien. Pour en discuter, on s'en va rejoindre Paul Journet, l'éditorialiste évidemment pour La Presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Et Hélène Buzetti, correspondante parlementaire pour Le Devoir à Ottawa. Madame Buzz, bonjour.
Bonjour.
Content de vous retrouver, ma chère Madame Buzz. Alors, très bien, très bien. Paul, vas-y donc avec les déclarations de Taillefer qui sont quand même assez percutantes, n'est-ce pas?
Oui, surtout celle sur le, il y a celle sur le multiculturalisme, sur l'austérité et aussi sur ses ambitions de devenir chef, mais il voudrait pas que la course se fasse trop rapidement. Peut-être qu'on peut commencer par le multiculturalisme. Mm-hmm. Encore une fois, j'y vois un positionnement comme un terme de, disons, du marketing politique, mais je me demande vraiment ce qui se cache, s'il y a quelque chose derrière ça. Je t'explique, il dit qu'il se dissocie du multiculturalisme à la Justin Trudeau. Soyons honnêtes, au Québec, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, sur la scène provinciale à l'Assemblée nationale, qui se revendique du multiculturalisme de Justin Trudeau? Donc, il n'y a rien de bien, bien étonnant la dame. Et moi, ce que je me demande, c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça? De quelle position concrètement est-ce qu'il se dissocie au Québec? Est-ce qu'il trouve que Philippe Couillard était trop proche du multiculturalisme canadienne?
Toi, tu dirais pas que Philippe Couillard, à défaut de l'endosser comme doctrine, le pratiquait, le multiculturalisme?
Ben moi, je te parle d'Alexandre Taillefer. S'il se dissocie de ça, j'aimerais ça savoir, lui, ce qu'il pense. Tu poses une bonne question, mais moi, je voudrais avoir la réponse d'Alexandre Taillefer.
Moi, c'est ce que je comprends. Moi, je pense qu'il fait le reproche. C'est... Il fait le reproche au Parti libéral de Philippe Couillard d'avoir été multiculturaliste à la Trudeau.
OK, mais concrètement, qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu fais différemment? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se rallier au compromis Bouchard-Taylor, au feu compromis Bouchard-Taylor, avec le port de signes religieux pour les agents qui exerce l'autorité coercitive de l'État. Si c'est le cas, j'aimerais ça l'entendre. Est-ce qu'il veut protéger plus le français? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il veut plus de pouvoir du fédéral? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que la francisation devrait être obligatoire? Donc, se dissocier, dire, moi, je ne veux pas un multiculturalisme à la Trudeau, c'est une chose, ça peut être vendeur, mais si tu veux devenir chef, il faut savoir concrètement qu'est-ce que tu voudrais faire. Cela dit, les libéraux viennent de perdre. La course à la chefferie n'est pas commencée. Je lui demande pas d'arriver avec un programme complet. Il sait même pas s'il sera candidat,
Paul, elle est commencée. Elle est juste pas lancée. Elle est juste pas lancée officiellement.
Mais lui, on ne sait pas s'il va se présenter. Moi, je voudrais que la course commence dans 2 ans, ou à tout le moins que le résultat, que le vote se fasse dans 2 ans. C'est long, ça. C'est très long.
Oui, tu as raison, c'est très long. Et par ailleurs, le problème que j'ai avec le discours de Taillefer, c'est pas tellement sur le fond. Moi, tout ce qu'il dit, je suis pas mal d'accord avec ça, là. Les gens me connaissent. Quoi qu'il ne parle pas de laïcité, là, pour répondre à ta question sur les signes religieux, là, quand il parle de nationalisme, puis il parle de langue, il parle de culture, il parle de nation, mais il ne mentionne jamais la question de la laïcité. Je referme cette parenthèse-là. Mais ce qui me fatigue, moi, c'est pas tellement le fond, c'est la manière avec laquelle il amène ce fond-là. Il dit, écoutez, moi là, avant de décider si je suis candidat à la direction du Parti libéral, il va falloir que le Parti libéral change. Hein, il va falloir que le Parti libéral devienne ça, soit plus nationaliste, etc., etc. C'est très bizarre parce que, dans le fond, la course au leadership sert à changer ça. Tu te présentes dans une course au leadership pour dire « voici ce que je vais changer au Parti libéral ». Lui, c'est comme s'il inversait l'équation puis il disait « il va falloir que les libéraux montrent patte blanche à mes yeux, moi, Alexandre Taillefer, pour que je décide après de vouloir les diriger ».
Je sais pas si ça allait jusque-là. Ce qu'il dit, c'est que le parti doit faire un examen de conscience, vraiment une réflexion existentielle qu'il cherche à se définir. Peut-être qu'il juge que c'est mieux de faire ça avant la course. Moi, j'ai l'impression que la course, comme toi, tu sembles dire que c'est un bon moment pour faire cette réflexion. Maintenant, peut-être que pour des raisons personnelles, il n'est pas prêt à se lancer. Puis ça, écoutez, on pourrait comprendre. Il est quand même impliqué dans toutes sortes d'activités entrepreneuriales, à commencer par Théo. Ouais. Mais écoute, quand je te dis une réflexion existentielle, là, c'est parce que le Parti libéral, ça a toujours été à peu près trois choses en même temps, ou à tout le moins, on pourrait le définir de trois façons. C'est un parti de pouvoir, hein, qui a toujours été proche de l'establishment, des chambres de commerce. C'est aussi le parti qui incarne le libéralisme, rappelle-toi des valeurs de Claude Ryan, un parti qui essaie de concilier les libertés individuelles avec un certain progressisme, quoi qu'on voit que des fois c'est difficile de faire les deux, on l'a vu avec le gouvernement Couillard. Et peut-être la troisième façon de voir le Parti libéral, c'est un parti qui se définit depuis environ 30 ans par rapport à son ennemi. Il est l'anti-Parti québécois, le parti qui ne veut pas faire l'indépendance et le parti qui agite l'épouvantail référendaire pour faire le plein de votes. Or, on le sait, cet ennemi parfait n'existe plus de la même façon. Il n'y a pas de parti qui veut se lancer dans ce genre de démarche-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils vont vraiment devoir se redéfinir parce qu'ils ne font plus face aux mêmes ennemis.
Tu vois, tu as raison de dire, est-ce qu'il va aussi loin que ce que j'ai dit? En fait, je faisais pas référence seulement à l'extrait qu'on a entendu tiré d'une entrevue que Paul Arcand a réalisée avec lui ce matin. Je faisais pas référence juste à l'entrevue qu'il a donnée à Paul ce matin. Je fais référence aux multiples déclarations qu'il a fait dans les dernières 24 heures. Mm. Dans son entrevue à Jocelyne Richer de la presse canadienne, il dit « Moi, je vais me porter candidat si deux conditions sont réunies. C'est-à-dire si la course a pas lieu avant deux ans et si le parti procède d'ici là à une refondation majeure. » C'est ça à quoi je faisais référence. Ouais. Il dit, il faut que le PLQ se refonde, qu'il admette d'une certaine façon ses erreurs en matière d'austérité, pas en matière de multiculturalisme. Et là, je verrai après si il est assez bon pour moi, le parti, pour que je sois candidat au leadership. Je le trouve assez culotté, je dois dire.
En tout cas, le risque, c'est que...
Hélène, oui, vas-y donc.
J'allais demander, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de tenter ses appuis? Vous affichez vos couleurs comme ça en disant, moi, c'est un peu la direction dans laquelle où je veux me diriger. Et là, ensuite, il va avoir des gens qui vont l'appeler, qui vont le contacter. Et là, il va pouvoir comme ça mesurer s'il y a de l'appétit pour ce qu'il propose au sein des rangs libéraux, si ce qu'il propose est susceptible de rameuter des gens qui avaient peut-être un petit peu boudé le parti dernièrement. Et donc, c'est une stratégie qui est pas nouvelle en politique là, que de voir avant de se lancer si on peut aller chercher des appuis.
Bon, oui, c'est vrai, mais je vais dire, là, j'ai parlé à beaucoup de libéraux là, hier après-midi puis hier soir, là, puis je vais dire, son approche jusqu'à maintenant, en tout cas, là, chez les libéraux à qui j'ai parlé, ne trouve pas beaucoup, beaucoup d'écho favorable parce qu'ils n'aiment pas tellement l'attitude du gars qui dit, dans le fond, on a bien fait de se faire sortir du pouvoir, on a bien fait de se faire taper ses fesses puis de se faire mettre à la porte du gouvernement parce qu'on le méritait. Puis dans une des entrevues qu'il a données, hier ou avant-hier, il parlait même de la corruption. Il parlait du problème il parlait de la commission Charbonneau puis des vieux péchés du Parti libéral des dernières années en rapport à l'intégrité. Va te dire, t'ajoutes corruption à austérité, à multiculturalisme, puis dans le fond, tu te dis, coudon, t'es-tu sûr que c'est le Parti libéral? Ouais. Ben, t'es-tu trompé de parti?
Puis il est tombé exactement dans le spin de la Coalition Avenir Québec puis du Parti québécois qui essayait toujours de dire que ça a été une continuité ininterrompue de 15 années des libéraux au pouvoir. Or, on le sait, le bilan de Jean Charest, c'est pas le bilan de Philippe Couillard, et les problèmes d'éthique, ils étaient essentiellement sous le gouvernement Charest, puis lui, il fait le lien entre les deux, puis ça, c'est sûr que ça doit irriter pas mal de gens. Ben puis, oui. Dernière petite affaire, si M. Taillefer demande aux libéraux de réfléchir longuement aux causes de la défaite, bien, ça se peut qu'une des réponses qu'il trouve, c'est la mauvaise campagne présidée par Alexandre Taillefer.
Voilà.
Ça va peut-être pas l'aider beaucoup.
Mais c'est exactement ce qu'un libéral me disait hier après-midi. Il me disait, c'est lui qui a présidé la campagne la plus... comment est-ce qu'il disait ça? Genre la plus poche de l'histoire, celle qui nous a donné le pire des résultats. Et là, il se propose de venir diriger le parti.
Et ça le dit, je ne sais pas dans quelle mesure il était...
Je pense que c'est
le premier responsable. Il est assurément associé à ça, mais je ne sais pas autour de la table si c'est sa voix qui pesait le plus fort.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'ascendants. C'est parce qu'il n'a pas été capable d'infléchir les directions du parti dans cette campagne, en tout cas.
Ça se pourrait. Alors, on va s'arrêter parce que Mme Boss veut nous parler, bien entendu, de Michaël Jean, dont on connaît maintenant le triste sort.
L'eau chaude.
Voilà. Elle ne sera plus secrétaire générale, n'aura plus de problème avec sa robinetterie. En tout cas, pas celle-là. Dans un instant, Mme Boss. De retour avec Paul Journet et Hélène Buzetti. Hélène, parle-nous donc de la francophonie.
Ben, écoutez, la grande question qui se pose, c'est est-ce que le Canada a bradé ses principes afin, dans le fond, d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021? Et Michaël Jean l'a un peu sous-entendu dans ses propos qui ont été rapportés ce matin, là, qui sont produits, dans le fond, pendant la nuit, lorsqu'elle a dit « Faut-il, et je cite, « accepter que la démocratie, les droits et libertés soient réduits à de simples mots au nom de la realpolitik ». Alors, évidemment, elle fait référence au fait que son adversaire, sa rivale qui a été nommée Louise Mushikiwabo, elle vient du Rwanda, qui n'est pas particulièrement le paradis des droits démocratiques et de la liberté de la presse, notamment. Mm-hmm. Et à ça, à cette question, M. Trudeau a répliqué que ce n'était pas le cas, c'est pas ça qui avait guidé sa décision de se rallier derrière la Rwandaise. On peut l'écouter.
Non. On a appuyé la candidate rwandaise quand c'était clair qu'il y avait un consensus de la part des pays africains et donc de la francophonie. Toute organisation multilatérale a de la politique et des campagnes ou du positionnement à l'intérieur de l'organisme. On sait très bien que ce soit des courses aux Nations Unies ou ailleurs. Le Rwanda voulait avoir ce poste de leadership et ils ont travaillé très fort pour l'avoir.
Oui, mais là, il faut juste mettre les choses en contexte un petit peu. Hélène, dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est que le gouvernement Trudeau a laissé passer la Rwandaise, voyant qu'il ne pouvait plus sauver la candidature de Michaël Jean, pour préserver le capital de sympathie que le Canada a auprès des pays africains, afin d'obtenir leur vote lors de la prochaine élection pour les sièges au Conseil de sécurité de l'ONU. On sait que le Canada veut obtenir un siège au Conseil de sécurité. Donc, je te laisse passer.
C'est la théorie.
C'est ça l'hypothèse. On laisse passer la Rwandaise et tout ce qui vient avec parce qu'on veut se ménager l'appui des pays africains lors du vote pour les Nations Unies.
Ouais, c'est un peu la théorie. Les pays africains pèsent lourd lorsqu'on on vient pour nommer un siège au Conseil de sécurité. D'ailleurs, aujourd'hui, pendant la nuit là, mais Monsieur Trudeau a rencontré plusieurs de ses homologues africains, là, le Bénin, Sénégal, Mali, Ghana, Tchad. On veut pas nous dire s'il a été question du siège au Conseil de sécurité, mais je pense pas que ce soit un hasard là qu'on ces liens-là et qu'on tente de les renforcer, c'est le calcul qu'on peut imaginer. Pourquoi on aurait fait ça? Pourquoi on n'est pas resté derrière la Canadienne dernière jusqu'au bout? Et d'ailleurs, Mme Jean, elle est très amère de ça. Justement, elle se demande si, c'est ça, on n'a pas joué plus de politique et pas vraiment pensé aux conséquences ou aux répercussions ou la symbolique de tout ça. Moi, ça me fait un peu penser à l'époque, quand on avait accordé les Jeux olympiques à la Chine, en 2008, rappelez-vous, c'était un peu cette idée de tendre la main au régime chinois. Et par la suite, lorsqu'on a vu que, ça n'avait pas nécessairement fait changer la Chine, il y avait encore des manifestants qui étaient interdits de manifestation, on a délocalisé des gens pour construire les installations olympiques, on a commencé à s'inquiéter. Et rappelez-vous qu'en bout de piste, Stephen Harper n'était pas allé aux cérémonies d'ouverture, comme d'ailleurs d'autres leaders de pays occidentaux. Donc, c'est la théorie de la main tendue, mais ça ne porte pas nécessairement toujours les fruits escomptés. M. Legault, qui s'est fait poser la question, lui a dit, écoutez, le Rwanda, c'est peut-être pas parfait, mais il faut le comparer à lui-même et non pas à ce que nous sommes. Et donc, le Rwanda, par rapport à ce qu'il était, mettons, en 94, il y a eu beaucoup de progrès et c'est ça qu'il faut mesurer, ou en tout cas, dont il faut prendre acte.
Très bien. Il nous reste 1:30. Il faut parler de Stephen Guilbeault. Il a nié, je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, je l'ai eu en entrevue il y a quelques minutes de ça. Il a dit non, il n'est pas question que je me présente pour le Parti libéral du Canada dans Outremont pour la partielle, mais il n'écarte pas la possibilité de se présenter aux élections générales de l'automne prochain. Dans quel comté, on verra bien à ce moment-là. Réaction de Hélène et par la suite, Paul.
Ben, ça m'étonne pas dans le sens où on se garde toutes les portes ouvertes. Il avait l'air de dire qu'il va dans l'entreprise privée pour l'instant, donc ça serait un peu mal vu de dire oui, j'y vais, mais juste pour 8 mois parce que j'ai une campagne électorale à bâtir à l'été prochain. Donc, je pense que la porte reste ouverte. Il y avait une petite situation quand même intéressante quand on lui a demandé essentiellement, oui, mais avec Trans Mountain, est-ce que, par exemple, les libéraux ne seraient pas contraires à vos principes? Et il a dit, ben, il faut pas regarder juste ça, il faut regarder l'ensemble du bilan d'un parti politique lorsqu'on évalue nos intérêts. Puis il a dit, ben, le Parti libéral, c'est aussi le parti de la taxe carbone qui plafonne les émissions industrielles, etc. Donc, il avait l'air quand même de se laisser une porte ouverte, mais il faut le dire, M. Guilbeault, il a été sollicité par à peu près tous les partis politiques.
Tout à fait, Paul, en 30 secondes.
Ben, deux obstacles, je pense, pour qu'il se lance au partiel. La première, il y a déjà une ministre de l'Environnement, puis la deuxième, comme Hélène l'a mentionné, Trans Mountain. Je ne vois pas du tout Stephen Guilbeault aller défendre Trans Mountain en étant l'adjoint de Catherine McKenna. Par contre, une chose qui milite en faveur de sa candidature lors des prochaines élections, c'est que s'il va avec les libéraux, son adversaire, ce sera les conservateurs qui sont contre toute tarification du carbone. Mmh. Alors là, il pourra sans difficulté dire que M. Trudeau, malgré ses problèmes en environnement, est nettement une solution préférable à celle des conservateurs.
Paul Journet, éditorialiste à La Presse. Bon week-end.
Bon week-end.
Hélène Buzetti, correspondante parlementaire à Ottawa pour Le Devoir. Merci, Hélène.
Merci, au revoir.